Merci Eric. Et merci à vous tous qui êtes venus ce matin pour être ensemble, pour célébrer notre Dieu, pour prier, pour le louer et pour partager l'amour qui nous unit. Qui parmi vous n'était pas là à Pâques? Ah, vous avez manqué quelque chose. Il y a 5 semaines, nous avons vécu un très beau culte de Pâques. Les ballons, pas les œufs, ont enchanté les enfants et les adultes. Et si vous ne comprenez pas, posez la question à ceux qui étaient là pour comprendre ce qui s'est passé. Jeudi de cette semaine, ce sera la prochaine fête religieuse, l'Ascension, en souvenir du Christ qui, après sa résurrection, et un temps où il est apparu à plusieurs personnes et monté au ciel. Et ensuite, 10 jours plus tard, la Pentecôte. L'Ascension et la Pentecôte commémorent les événements qui se sont passés après la mort et la résurrection de Jésus. Les évangiles et le livre des Actes nous en parlent. À plusieurs reprises, les évangiles rapportent que Jésus est apparu à ses disciples. Il s'est entretenu avec eux, il a partagé un repas lors de certaines occasions. Et ces récits sont d'une très grande importance pour 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'ils établissent que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Il y a ces témoins qui en parle. Comme nous l'avons entendu lors de l'introduction et dans les chants, la résurrection de Jésus-Christ est d'une grande importance pour notre foi. Elle est la garantie que notre foi n'est pas vaine. Les témoignages de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, tels que rapportés dans les évangiles, constituent une preuve historique que le Christ est réellement ressuscité. Le deuxième aspect est que ce que Jésus a dit à ses disciples. Nous allons lire aujourd'hui un texte qui est de l'Évangile de Matthieu. Lorsque Marie-Madeleine et Marie sont allées au tombeau le dimanche de Pâques, 3 jours après la mort de Jésus, un ange leur apparaît. Elle leur annonce que Jésus est ressuscité et il leur dit d'aller en Galilée où ils le verront. Donc les disciples vont en Galilée. Et là, nous rejoignons le texte, et je prierai Lydia de nous le lire, qui est celui de Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20.
Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Merci pour la lecture. Il est difficile d'imaginer la scène. Face au Christ ressuscité, les disciples se prosternent. Le texte nous dit que quelques-uns ont eu des doutes. L'Évangile ne nous dit pas à quel sujet il avait des doutes. Est-ce que c'était une incrédulité instinctive face à cet événement bouleversant, l'incroyable, entre guillemets, résurrection du Seigneur Jésus? C'est possible. Nous savons que par la suite, ils ont mis de côté leurs doutes et ils se sont engagés. Et ensuite, comment ça s'est passé? Peut-être comme sur cette peinture, James Tissot était un peintre français qui a fait la plupart de sa carrière ensuite en Angleterre, un peintre du 19e siècle. Vers la fin de sa vie, à cause de sa foi, il a fait un cycle de gouache sur la vie de Jésus. Et cette collection se trouve aujourd'hui dans le musée à New York, Brooklyn Museum, et c'est accessible online, on peut charger les images gratuitement. C'est vraiment une très belle œuvre qui est peut-être datée. Mais Jésus avec ses disciples. Donc, Jésus leur dit plusieurs choses qui sont frappantes. Il dit tout d'abord, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » L'évangile de Matthieu, dans lequel nous le lisons ici, accentue la royauté de Jésus-Christ. Il commence, si vous vous souvenez, le premier chapitre, c'est cette longue liste de généalogies qui en fait établit que Jésus est dans la lignée royale de David. À la naissance à Bethléem, il y a ces mages qui viennent de très loin et qui cherchent à voir le roi des Juifs qui vient de naître. Et lorsque Jésus est crucifié, et l'évangile de Matthieu le dit très clairement, il l'est en tant que le roi des Juifs. C'est ce que dit la plaque qui indique la raison de sa condamnation. Donc il dit aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le mot grec qui est traduit ici par « pouvoir » signifie le pouvoir d'exercer une autorité. Ce n'est pas de savoir faire quelque chose ou pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment le signe de l'autorité. Et les disciples l'ont vécu, ils ont vu l'autorité de Jésus pendant son ministère. Il a opéré des miracles, il a démontré qu'il peut pardonner des péchés, chasser des démons. Il était celui qui pouvait juger. Et sa résurrection maintenant manifeste que cette puissance lui a été donnée par Dieu. Le deuxième point, Jésus dit, « Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc il confie aux disciples une mission, aller vers toutes les nations, pas seulement vers le peuple d'Israël. Lorsque Jésus a parlé aux disciples au début de son ministère, il a dit, n'allez pas vers les autres nations, allez vers le peuple d'Israël, vers les brebis perdues de ce peuple. Là, ça change. Toutes les nations. Annoncez-leur l'évangile. Baptisez-les. L'expression en grec qui est traduite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit implique que le baptême donne à celui qui est baptisé l'accès au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça donne une direction. Ce n'est pas au nom comme souvent on dit, je le fais au nom du roi, par exemple. Là, c'est autre chose. Donc, ce verset envoie les disciples vers toutes les nations en tant qu'ambassadeurs du Christ pour en faire des disciples. Et le troisième point, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est la garantie que la mission que les disciples viennent de recevoir est faisable. Au moment où ils l'entendent, Jésus ressuscité est avec eux. Donc, oui, je suis avec vous. Il est là, il le voit, Jésus ressuscité. À Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit qui va diriger les disciples, qui va accompagner l'Église naissante. Et par ailleurs, le livre des Actes nous apprend comment cette promesse, Christ avec les nouveaux chrétiens, s'est vécue dans les premiers temps. L'évangile a été annoncé à travers l'Empire romain. Des communautés se sont formées et ont reçu l'enseignement des apôtres. Par ailleurs, nous avons cet enseignement dans les épîtres du Nouveau Testament. Donc, la promesse était là et nous savons elle a été accomplie sans interruption jusqu'à que ça arrive vers nous. Alors, Jésus s'est adressé à ses disciples, il leur a donné une mission qui était plein d'absolu. 4 fois dans ce texte, on a le mot « tout ».« Tout le pouvoir m'a été donné, allez vers toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur, et tous les jours, je suis avec vous. » Alors, ça a l'air assez sympa dans ce petit cercle. Jésus n'a pas dit de rester dans un petit cercle, peut-être l'élargir un peu pour accommoder les femmes, les familles, les enfants. Non, il les a donné une mission qui les sort de leur zone de confort. Mais en même temps, il leur donne le moyen. Cette mission d'aller vers toutes les nations ne s'est pas arrêtée à la fin de la vie de ses disciples. L'Église l'a reprise. C'est une mission adressée à l'Église qui est en train de naître, donc cette Église qui, dans les décennies après, va naître et dont nous faisons partie à travers le temps. Donc nécessairement, nous devons nous poser la question, et aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons remplir cette mission ? Toutes les nations. Cet appel a été pris au sérieux par beaucoup de mouvements missionnaires. La Bible, à cause de cet appel, a été traduite dans beaucoup de langues. Au cours du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, l'expansion du christianisme a été importante. Et à la fin du XXe siècle, ça donnait l'impression que le christianisme est une religion universelle, indépendante de relations géographiques et de la civilisation occidentale, qu'elle peut aller partout. Selon les sources que l'on consulte, on obtient des aperçus qui accentuent soit la présence chrétienne, comme ici dans Wikipédia, ou qui soulignent les difficultés, notamment en relation avec la persécution. Donc ici, c'est la carte des chrétiens en pourcentage de la population des pays indiqués. Alors, désolé, ça c'est une mauvaise résolution, mais il y a en Afrique du Nord vraiment du blanc ou du gris, bleu clair, aussi dans des pays d'Asie où il y a des persécutions. Donc il y a beaucoup de place pour annoncer cette parole malgré les difficultés. Mais ce qui devrait nous préoccuper aussi, c'est que certaines de ces régions qui semblent relativement foncées, relativement acquises, à la foi chrétienne, en fait, sont en train de changer. Pour beaucoup de nos contemporains, finalement, l'Évangile a perdu la signification, la saveur. Pour eux, le christianisme évoque une vague spiritualité qu'ils peuvent décliner parfois avec d'autres tendances, parfois d'inspiration orientale ou ésotérique. Donc on entre dans au moins en Europe, dans ce qu'on appelle le monde occidental, dans une dérive par rapport à la foi. Donc, comment remplir cette mission dans ce monde où à la fois on a besoin des missionnaires dans les pays difficiles où l'évangile ne peut pas être annoncé ou seulement difficilement, et ici dans un monde qui s'y désintéresse, qui distord le message, qui l'adapte à beaucoup de choses, mais qui finalement a perdu la foi. Il est possible, bien sûr, nous devons soutenir la mission au loin, mais il est aussi possible que notre mission comprenne aussi de faire connaître l'Évangile et susciter l'envie de connaître le Christ parmi nos contemporains, ici à Lausanne, en Suisse, en Europe, dans ce monde considéré christianisé. Alors, probablement la plupart, comme je vois, est d'accord avec ça. Le problème, c'est avec quels moyens. Alors, c'est sûr que nous pouvons nous appuyer sur cette promesse que le Christ a donnée à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours. » Et ça n'est pas remis en question, nous le savons. Mais pratiquement, comment faire? Comment susciter l'envie de connaître le Christ? En ce qui concerne notre Église, l'Église évangélique de Villars, qu'est-ce qu'elle peut faire pour répandre l'Évangile, faire connaître l'Évangile à nos contemporains? Nous devons y réfléchir ensemble. Je n'ai pas la réponse. C'est une image prise au mois de juin au-dessus de Zaasfee. Nous devons comprendre que l'avenir de l'Église n'est pas une vie de niche, aussi exquise qu'elle puisse être. Ces petites fleurs poussaient au milieu d'une paroi rocheuse, à l'altitude, et émerveillaient les promeneurs alors que les restes de neige n'étaient pas loin. Mais une vie de niche n'est pas la mission qui a été confiée à l'Église. Annoncer l'Évangile à toutes les nations pour que beaucoup connaissent le Christ et deviennent ses disciples, c'est ça la mission. Nous devons sérieusement réfléchir, nous, l'Église de Villars, comment la remplir. Désolé, mais ce message me bouleverse et je viens devant vous avec appréhension, car je ne sais pas comment nous devons le faire. Je n'ai pas la solution, mais je crois que ensemble, en cherchant la volonté du Seigneur pour notre Église, nous pourrons entrer dans la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Et je vous remercie de nous mutuellement accompagner dans cette démarche.